Merci Viviana. Et un peu de Mika pour rafraîchir l'atmosphère, c'était Vive le vent. Et après vous avoir fait fondre le cœur comme du beurre sous de la brioche chaude, on va vous déprimer. Si vous avez l'alcool à disposition, buvez un petit coup. Camille, qui ne recule ni devant les cannibales ni devant les larmes, va vous lire un poème vénézuélien, Elegía a una velada añeja, de Inés de Cuevas.
Por el umbral de un año que agoniza, caminan, fugitivas, las divinas fragancias de una noche de fiesta. Hay cánticas solemnes libando mi tristeza. Y el cucu milenario acuna entre sus manecillas negras. El moribundo adiós del año que nos deja. ¡Qué monótono pasa! Se detiene y amontona mis horas en el frío silencio del tiempo que se queda. Un mutismo de años levanta su copa con cada campanada que da la noche nueva. Y al invocar tu nombre, el champán del recuerdo me emborracha de pena. Los recuerdos, ah, los recuerdos. Informales viajeros que abordan los vagones cargados de nostalgia. Yo me quedo mirándolos, cómo se deslizan por el carril helado de mi velada añeja. Arrojan las varijas en el brocal oscuro donde ahogan sus quejas. Ahí, bajo el parar desnudo, junto a los que se amaron en tantas noches viejas, a la lumbre de sueños, poemas y promesas, donde, al morir un año, vaciaban su moral de enhorabuenas. Hoy me han dejado sola. ¿Cómo se quedan todos los que en noches como esta no quieren que haya fiestas? Porque tienen el alma rota, ya que no hay quien comparta el amor en tu mesa. Y al acompañar la dulce, cuando abra la puerta, traer el año nuevo su puñado de ausencia. Ya no habrá noches viejas, ni amor, ni ruegos. Cabalgará el dolor por las mismas callejas. Y en el triste silencio de mi gran noche vieja, titirará la luz de tu recuerdo. It's Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year, I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone.
Merci Camille. Allons, allons, pourquoi ces visages sinistres? Ah, pardon, indigestion, ça arrive. On vous a mis un peu de Blink-182, I Won't Be Home for Christmas, et leurs pulsions violentes, pour vous distraire le temps d'aller mieux. Et pour vous redonner foi en l'humanité, Viviana vous lit un court extrait de Il Giornana de Gian Baruska par Di Vamba.
Gian Baruska, que c'est le... personnage principal de le journal de Gian Baruska écrit par Vamba, qui est un pseudonyme de Luigi Bertelli, écrit dans 1907. Et un enfant qui fait beaucoup de blagues à toute sa famille et les raconte dans son journal. Le style est l'aspect plus intéressant du livre parce que l'auteur utilise le langage d'un enfant avec les erreurs de grammaire, les mots inventés. Et c'est comme si nous étions réellement dans la tête du protagoniste. Il dit que les raisons pour lesquelles il aime Noël, c'est qu'il peut manger beaucoup de gâteaux toute la journée. Et il n'est pas intéressé par Jésus, même si sa mère dit que c'est l'aspect plus important. Et la magie de Noël peut seulement être racontée à travers les yeux d'un enfant pour préserver les charmes enchantés que nous avons perdus, plus ou moins. 25 dicembre. Io preferisco a tutti gli altri mesi dell'anno quello di dicembre, perché c'è il Natale e Caterina fa sempre due bei budini, uno di riso e uno di semolino, perché alla mamma piace quello di semolino e quello di riso non lo può soffrire. E il babbo va matto per quello di riso, mentre quello di semolino la annoia come il fumo agli occhi. Io invece li preferisco tutti e due, e siccome anche il dottore dice che fra i dolci i budini sono i più igienici, così ne mangio quanto mi pare e nessuno mi dice nulla.
Alors si c'est ça les valeurs, les cadeaux font le bonheur. Remplis le grand panier en ferraille et nourris ceux que tu affames. Joyeux Noël, joyeux Noël.
Merci Viviana, et un triste Noël vous a été souhaité par Marie Chérier en virgule. Est-il besoin de le préciser? Proposé par Camille. Allez, on retourne du côté lumineux de l'arbre. Parce que le côté qui fait face au mur, on a tendance à y mettre moins de guirlandes, personne ne les voit. Du côté lumineux donc, et on va y rester. Pour la discussion, je passerai les rênes à Willem. Attention, il y a un des rênes qui boite. Mes excuses, je n'ai pas le talent d'un Terry Pratchett qui nous servira de support pour discutailler au pied du sapin. Bienvenue dans l'univers décalé du Disque Monde, soutenu par quatre éléphants, eux-mêmes en équilibre sur la carapace d'une tortue, qui sert de cadre à une série de romans fantasy foisonnantes d'intrigues loufoques. Si vous n'avez jamais lu du Pratchett, préparez-vous à de l'humour sous toutes ses coutures, ironie, comique de répétition, parodie, satire, private jokes et peau de banane, avec une forte tendance aux notes de bas de page délirantes. Dans le 20e roman du cycle, The Hogfather, le père porcher éponyme, équivalent de notre Père Noël dans un monde où le bacon a un statut quasi divin, a disparu suite à une tentative d'assassinat fomentée par les auditeurs, des obscures créatures qui veulent que le monde soit vide de toute joie et de toute croyance. Du coup, la mort prend un second boulot temporaire pour assurer la distribution des cadeaux, aidé de son assistant Albert, déguisé en elfe, et avec l'idéalisme qui caractérise le personnage, il refuse de rester dans les limites capitalistes de son rôle. Oui, il, mort, c'est masculin en anglais. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il rencontre la petite fille aux allumettes, agonisant dans la neige, auquel il est censé offrir la fin de la vie ? Forcément pas ce que Andersen avait prévu. Je vous lis la VO avant de laisser William aux commandes avec la traduction du fabuleux Patrick Couton qui a obtenu un Grand Prix de l'Imaginaire 1998 pour son travail de Titan, l'ensemble des traductions du Disque Monde. The sleigh slewed around at the end of Money Trap Lane.
Come on, Albert.
You know you're not supposed to do this sort of thing, Master. You know what happened last time.
The Hogfather can do it, though.
But little match girls dying in the snow is part of what the Hogwarts spirit is all about, Master, said Albert desperately. I mean, people hear about it and say, we may be poorer than a disabled banana and only have mud and old boots to eat, but at least we're better off than the poor little match girl, Master. It makes them feel happy and grateful for what they've got, see?
I know what the spirit of Hogwarts is, Albert.
Sorry, Master. But look, it's all right anyway, because she wakes up and it's all bright and shining and tinkling music and there's angels, Master. Death stop.
Ah. They turn up at the last minute with warm clothes and a hot drink.
Oh dear, thought Albert. The master's really in one of his funny moods now. No, not exactly at the last minute, Master. Not as such.
Well?
More sort of just after the last minute, Albert coughed nervously.
You mean after she's...
Yes, that's how the story goes, Master. It's not my fault.
Why not turn up before? An angel has quite a large carrying capacity.
Couldn't say, Master. I suppose people think it's more satisfying the other way. Albert hesitated and then frowned. You know, not that I come to tell someone.
Death looked down at the shape under the falling snow. Then he set the life timer on the air and touched it with a finger. A spark flashed across.
You ain't really allowed to do that, said Albert, feeling rich.
The Hogfather can. The Hogfather gives presents. There's no better present than a future.
Yeah, but...
Albert!
All right, Master.
Death scooped up the girl and strode to the end of the alley.
The snowflakes fell like angels' feathers. Dev stepped out into the street and accosted two figures who went tramping through the drift.
Take her somewhere warm and give her a good dinner,
he commanded, pushing the bundle into the arms of one of them.
And I may well be checking up later.
Then he turned and disappeared into the swirling snow. Shortly afterwards, there was some tinkling music and a very bright light, and two rather affronted angels appeared at the other end of the alley. But Albert threw snowballs at them until they went away.
Le traîneau dérapa au bout du chemin Belsfric. Viens, Albert. Vous savez que vous ne devez pas faire des trucs pareils, maître. Vous savez ce qui est arrivé la dernière fois. Mais le père Porcher peut le faire, lui. Seulement, les petites marchandes d'allumettes qui meurent dans la neige participent de l'esprit de la fête du Porcher, maître, objecta Albert d'un ton désespéré. Voyez, les gens qui apprennent la nouvelle se disent « On est peut-être plus malheureux qu'une banane estropiée, on a peut-être que de la vase et des godasses à se mettre sous la dent, mais au moins, on s'en sort mieux que la pauvre petite marchande d'allumettes, maître. » Du coup, ils se satisfont de ce qu'ils ont, ça les réconforte, voyez. Je sais tout de même ce qu'est l'esprit du Porcher, Albert. Pardon, maître, mais... Écoutez, c'est de toute façon pas grave, parce qu'elle va se réveiller, que ça brillera de partout, il y aura la lumière, de la musique argentine et des anges, maître. La mort s'arrêta. Ah, ils arrivent à la dernière minute avec des vêtements chauds et une boisson bouillante. Oh là là, se dit Albert, le maître traverse vraiment une de ses drôles de passes en ce moment. Non, pas exactement à la dernière minute, maître, pas à proprement parler. Alors, plutôt comme qui dirait juste après la dernière minute. Albert toussota nerveusement. Tu veux dire après qu'elle... Oui, d'après ce qu'on raconte, maître, pas ma faute. Pourquoi ne pas arriver avant? Un ange dispose d'une assez grosse capacité de transport. Aucune idée, maître. À mon avis, les gens trouvent l'autre solution plus satisfaisante. Albert hésita, puis fronça les sourcils. Vous savez, maintenant que j'en parle, la mort baissa la tête vers la forme sous la neige qui tombait. Puis il plaça le compte-vie devant lui, en suspension dans le vide, et le toucha du doigt. Une étincelle fulgura au travers. Vous n'avez pas vraiment le droit de faire ça, dit Albert d'un air coupable. Le père Porcher a le droit, lui. Le père Porcher fait des cadeaux. Il n'en existe pas de plus beau qu'un avenir. « Ouais, mais Albert... »« D'accord, maître. » La mort ramassa la fillette et se dirigea à grands pas vers le bout de la ruelle. Les flocons tombaient comme des plumes d'anges. La mort déboucha dans la rue et accosta deux silhouettes qui cheminaient à travers les congères. « Emmenez-la au chaud et offrez-lui un bon dîner, » ordonna-t-il en déposant de force son ballot dans les bras d'une des silhouettes. Il n'est pas impossible que je vienne vérifier plus tard. » Puis il fit demi-tour et disparut dans la neige tourbillonnante. Peu après, une musique argentine retentit, une lumière éclatante jaillit, et deux anges indignés apparurent à l'autre bout de la ruelle, mais Albert leur jeta des boules de neige jusqu'à ce qu'ils décampent. Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans ces extraits, c'est que c'est... Bon déjà, c'est drôle, et qu'en plus, ça montre bien aussi que même si Noël, c'est une fête d'altruisme, etc., il y a toujours un petit côté, bon bah, au moins, nous, on est plus heureux que les autres. Donc je vois, Camille, que tu frétilles sur ta chaise, donc tu as quelque chose à dire par rapport à ça ?
Non, parce que je me fais pourrir depuis le début de cette émission, parce que je ne choisis que des choses tristes pour Noël. Donc je dois me défendre. Je pense qu'en monde de réjouissance imposée comme Noël, la période des fêtes, forcément ça peut... être un moment où ça peut exciter, comment dire, une certaine tristesse, une certaine mélancolie par rapport à cette obligation qu'il y a à être heureux et à célébrer Noël. Et je trouve la pluie aux allumettes et aussi ce que tu viens de lire dans cet extrait du Père Porcher, ça montre bien qu'il ne faut pas que ça masque aussi certaines réalités, à savoir bah, ici la pauvreté tout simplement.
D'ailleurs, il commence son roman en disant que toutes les histoires commencent par une histoire de sang et qu'après c'est masqué en Père Porcher.
Oui, parce qu'il remonte à l'origine païenne de Noël comme le solstice. Un peu après le solstice, enfin, où l'idée qu'il y a. Il y a un sacrifice, une histoire avec des haricots, enfin je sais plus trop, mais l'idée c'est qu'on sacrifie quelqu'un pour que bah, le soleil revienne après l'hiver. Et bon, après on a rajouté la naissance de Jésus qui apparemment serait né en juillet.
Justement, dans beaucoup de textes de Noël, il y a ce lien qui est fait entre la réjouissance et un aspect un peu plus glauque, par exemple un texte avec une prostituée.
Il y a une tradition, comme Carolina aussi dit, pour Dickens, ouais. Qu'il y a par exemple le... Toutes les maisons qui sont avec tous les cadeaux, avec tous les repas de Noël, donc où habitent les personnes plus riches, mais il y a aussi des personnes qui sont plus pauvres et ne peuvent pas organiser des fêtes si bien comme les autres. Et par exemple, aussi, Dickens est très particulière parce qu'une chose qui est pour tout le monde, c'est quelque chose de joyeux et de bon. Et il peut être aussi la chose plus triste au monde parce que si tu n'as pas la possibilité d'être heureux, quel jour, ces jours-là.
Ce que je me disais aussi en t'écoutant lire Michael Faber, c'est que la prostituée, elle retourne un peu à ses souvenirs d'enfance pour essayer d'expliquer à l'enfant ce que signifie Noël. Mmh. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette plongée à chaque fois dans les souvenirs. Dans le poème de Inès de Cuevas, enfin j'ai pas tout compris à nouveau, mais
là c'est un peu différent parce que déjà c'est les fêtes en général, c'est aussi le jour de l'an,
d'accord.
Mais elle c'est plus, oui, il y a aussi la mention des souvenirs, recuerdos, ça veut dire souvenir. Et elle c'est des souvenirs tristes qui viennent parasiter ce moment joyeux, donc c'est un peu différent. Là c'est la solitude, un moment où tout le monde se réunit, donc ça décuple la tristesse. Je pense qu'on peut aussi créer une ambiance dramatique dans un roman, enfin c'est le moment le plus utile parce que c'est le climax du bonheur, donc c'est là où par contraste tu accentues l'effet dramatique.
Donc, justement. Pour revenir à l'idée du souvenir, c'est aussi parce que Noël, c'est lié à l'enfance, comme on l'a vu dans tous nos textes, et aussi à l'importance de la croyance, de croire au Père Noël, par divers moyens, quels qu'ils soient.
Bah, quand j'ai choisi l'extrait d'Ibsen pour Linky Pit, je pensais aussi, non seulement parce que ça se passe à Noël et tout ça, et du coup, il y a toute la question de l'argent, mais parce qu'elle est traitée par lui comme un enfant, et ça ressort de façon particulière à Noël. Elle mange des sucreries, elle n'est pas censée en manger, elle est marron qu'elle mange, tout ça. Normalement, elle se fait gronder par son mari, il l'appelle mon petit écureuil, petite adouette. Mais pour un jeune enfant, ça peut être agréable, mais ça peut aussi être. Dans le cas de ce texte-ci, c'est très.
Dégradant.
Dégradant, ouais. J'ai l'impression qu'on parle que de choses déprimantes, c'est pas le thème du jour.
Non, j'ai dit, Noël, c'était mieux avant. Tous nos textes montrent que Noël, quand on est enfant, enfin le petit extrait que tu montres avec cet enfant qui se réjouit de Noël parce qu'il peut manger des gâteaux et qui s'en fiche de la signification. Là, le souvenir que j'ai lu de Pérec, où il y a tout le contraste, où il dit « je suis revenue là, je sais pas, 30 ans plus tard, et la balustrade, elle m'est arrivée à mi-corps et c'était plus pareil, mais le souvenir est resté ». Et l'idée que, ouais, crois au Père Noël, tu demandais si c'était important, ben, je pense que c'est ça qui donne la... Une fois que t'as plus cette fiction qui enrobe les festivités, on va dire, ça a moins de sens.
Mais c'est pour ça qu'existe la fête, pour nous faire retomber en enfance. Et nous espérons, lecteurs, t'avoir fait retomber en enfance grâce à nos lectures.
Et c'était Lady Gaga, détruisant votre enfance avec Christmas Tree. Et voilà, tous les cadeaux sont ouverts, ou presque, et il est temps de retourner à la vie réelle. Nous espérons vous avoir transmis l'esprit de Noël, ou du moins ne pas vous avoir trop déprimé avec le côté capitaliste, et c'était mieux avant. En cas d'échec, pas de problème, vous avez probablement du chocolat dans un rayon de moins de 10 mètres pour vous consoler. Et pour des fins plus littéraires, vous pouvez toujours retirer vos écouteurs et fourrer le nez dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. copyright, Camille. Cette émission a été préparée tous ensemble et enregistrée par Robin, toujours fidèle à la technique. Le t-shirt du jour n'est pas en rapport avec Noël, mais suffisamment bizarre. Alors, je veux dire, c'est un cadeau pour les philosophes. Si jamais ils comprennent le sens, dites-moi, parce que je veux savoir. C'est donc la figure de Spinoza. Et en dessous, il y a marqué « LOL, laughing out loud ». Je ne comprends pas. Lio tire sa révérence pour l'instant. On se retrouve en 2014, tout frais, tout pimpant, et normalement pour parler cinéma. D'ici là, allez voir les autres épisodes spéciaux Noël sur Transistor et gardez la foi en la magie. Faites donc comme le grand J.R.R. Tolkien, qui écrivait chaque année, même pendant la guerre, une lettre à ses enfants de la part du Père Noël et qui sera notre envoi du jour, comme une belle étoile d'or couronnant ce sapin littéraire. Et dernier cadeau musical, Bob Dylan, Here Comes Santa Claus. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking, see your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Cliff House, North Pole, Christmas Eve, 1942. My dear Priscilla, Paula Bear tells me that he cannot find my letter from you among this year's piles. I hope he has not lost any. He is so untidy. Still, I expect you have been very busy this autumn at your new school. I have had to guess what you would like. I think I know fairly well, and luckily we are still pretty well off for books and things of that sort. But really, you know, I have never seen my stocks so low or my cellars so full of empty places, as Paula Bear says. I am hoping that I shall be able to replenish them before long, for there is so much waste and smashing going out that it makes me rather sad and anxious too. Deliveries too are more difficult than ever this year, with damaged houses and houseless people, and all the dreadful events going on in your countries. Of course, it is just as peaceful and merry in my land as ever it was. We had our snow early this year, and then nice crisp frosty nights to keep it white and firm, and bright starry days. No sun, just snow, of course. I am giving as big a party tomorrow night as ever I did. Polo cups, paksu, and volkatoka, of course, among them, and snowboys and elves. We are having the tree indoors this year, in the hall at the foot of the great staircase, and I hope Paul the Bear does not fall down the stairs and crash into it after it is all decorated and lit up. I hope you will not mind my bringing this little letter along with your things tonight. I am short of messengers, as some have great trouble in finding people, and have been away for days. Well, my dear, here is so very much love from Father Christmas once more, and very good wishes for 1943.